France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est le deuxième épisode d'une mini-série consacrée à la vie en camping. Et force est de constater déjà que cette vie-là m'a tout l'air de s'embourgeoiser. Finis en effet les petits campings familiaux détenus par un couple depuis des années, ce sont désormais de grands groupes internationaux comme Cap Fun, Camping Paradise et Utopia qui souvent les rachètent et les transforment en véritables parcs d'attractions avec un concept. Finis aussi les rouleaux de toilette qu'on se trimballe de la tente au sanitaire et le dancing du vendredi. Maintenant, il y a des animations tous les jours et des toilettes dans les mobile homes ou les chalets qui forment l'essentiel des logements. Beaucoup plus cher, évidemment, qu'une parcelle où on plante sa tente, pose sa caravane ou gare son camping-car. Et pour les quelques 100 000 personnes qui résident à l'année dans des campings, ce changement d'échelle est presque systématiquement le synonyme d'un départ forcé. À Aix-en-Provence, un camping détenu par une grande famille locale depuis un demi-siècle a ainsi été complètement métamorphosé. Lucas, qui est le petit-fils du fondateur et un ancien membre de la direction du camping, et Hervé, qui y vivait à l'année depuis 22 ans, racontent cette reprise en main par une holding qui est présente en France, en Chine et au Canada et qui promeut l'écotourisme. Une partie des équipes a également été licenciée et les habitants qui y habitent parfois depuis 40 ans ont vu leur lieu de vie subitement arraché. Un reportage sur place de Clémence Alezard.
Je m'appelle Lucas, j'ai 35 ans. J'ai été à la direction d'un camping chez mes grands-parents. C'est eux qui ont créé ce camping. Donc c'était pas un camping à la base, hein, c'était la maison familiale. Et il y a eu un campeur, je vous raconte l'histoire, qui est arrivé une fois et qui a demandé « Est-ce que je peux mettre mon camping-car chez vous ?» Et puis mon grand-père avait accepté ça. Puis après il y en a eu un deuxième, un troisième, et puis c'est devenu le camping Chantecler. Et moi, je suis quand même, entre guillemets, né là-bas. J'ai fait toutes mes vacances quand j'étais jeune, mais il y avait mes grands-parents, je les ai vus. Ils sont décédés sur place. Et après, c'est les enfants qui ont récupéré le flambeau et qui ont géré l'un après l'autre le camping. Et c'était le tour de ma mère. Ma mère a géré ce camping. Moi, j'habitais à l'étranger, j'ai perdu mon travail pendant le Covid. Donc, je suis venu passer une semaine en vacances dans ce camping-là. Et j'ai dit, je me sens bien, j'ai pas de travail. Pourquoi je ne travaillerai pas auprès de ma mère? J'ai envie de me rapprocher d'elle. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé au camping. Il y avait des résidents à l'année, à l'époque de mon grand-père. On peut les compter sur les doigts de la main, je pense qu'il y en avait une dizaine. Et nous, on a gardé ça parce que voilà, c'est un camping, ça vit aussi grâce à ça, aux résidents, pas à ceux qui viennent un week-end. Et c'est ça l'esprit camping. Et ces gens-là, je les connais presque depuis que je suis tout petit. Enfin, il y en a une qui est restée le temps de mon âge, enfin, 35 ans. Donc ils étaient là depuis toujours presque. Hein, donc, Et on les avait mis, on les avait rangés vraiment d'un côté, sur une parcelle dédiée à ça. Il y a un accès pour les clients et il y avait un accès pour les résidents. Donc c'était bien, bien séparé. Donc ça ne posait aucun problème. Le camping, il y a 10 hectares. Mais voilà, ça restait quand même quelque chose de familial. Et puis il y a eu le Covid. Donc ma mère a récupéré le camping pendant le Covid. Donc un camping vit, pas grâce aux Français, mais grâce aux étrangers. Donc on n'avait plus de source de revenus. Heureusement qu'on avait les résidents. Et pas que les résidents qui étaient là depuis plus de 35 ans, on parle aussi des étudiants qui restaient là, je sais pas, 8 mois. Bah, grâce à ça, oui, on a pu tenir. Mais à un moment donné, on s'est dit, oui, là, il faut que le camping, on puisse réinjecter de l'argent. Il faut que les mobil-homes qu'on a depuis 30 ans, on va pas faire qu'à chaque fois les réparer, les rénover. Il faut qu'on puisse racheter une nouvelle flotte de mobil-homes et puis rénover les sanitaires. On avait, voilà. En gros, tous les jours, c'était quelle est la priorité? De quoi on s'occupe, parce que là, voilà, il y a une fuite à tel endroit, il y a machin. Ça clignotait en rouge de tous les côtés. Donc c'est ingérable, hein. Donc on devait vendre. Et donc à ce moment-là, nous, pour avancer, il fallait qu'on cède nos parts pour qu'on puisse réinjecter de l'argent, réinvestir pour acheter des mobil-homes, pour faire que ce camping fonctionne. Et donc le seul moyen, c'était que quelqu'un de l'extérieur achète les parts. Et puis il y avait cette personne qui était là, qui tournait autour du camping, qui était intéressée, ça faisait 5 ans qu'il voulait le racheter. Il était très très ami avec ma mère, ils rigolaient bien ensemble. Il lui disait « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour t'entuber, fais-moi confiance ». Il a pris des avocats, ma mère, je lui ai dit « Mais faut que tu prennes des avocats, si de l'autre côté il prend des avocats, c'est qu'il y a une raison ». Et elle ne m'a pas écouté. Et voilà, il est arrivé ce qui devait arriver. Il n'a pas voulu garder ma mère, il n'a pas voulu garder l'équipe en place. Il a destitué les gens et il en a viré aussi beaucoup, donc voilà. Dès qu'il est arrivé, il a mis son fils co-gérant, il a évincé ma mère, il m'a destitué de mes fonctions. J'étais censé faire partie de la direction et il m'évinçait des réunions. Il me disait qu'il n'avait pas besoin de moi à tel poste alors que c'était écrit sur mon contrat. Il m'a mis en maintenance, donc en rénovation de mobilhome. Et puis il venait me harceler tous les jours, me pousser à ce que je commette une erreur pour me mettre dehors. Il était là à me rabaisser, à me dire que j'étais incapable de travailler parce que c'était dans mon sang, ma famille c'était des incapables, donc je suis un incapable. Bon bref, c'était ça tout le temps. Donc je me suis mis en arrêt maladie parce que je commençais à en gros exploser. Et à ce moment-là, le harcèlement a quand même continué parce que j'habitais sur le camping. Moi, je n'avais nulle part où aller. Donc même en étant en arrêt maladie, j'étais dans le camping, je vivais le camping. Il n'y avait pas d'échappatoire, enfin, je ne pouvais pas être serein. Par la suite, ce camping a été revendu à une chaîne de camping qui s'appelle Utopia. Et après le rachat, je me suis dit que j'allais rencontrer donc, la direction d'Utopia pour voir si peut-être on pouvait retravailler ensemble. Ça a été un moment douloureux, impossible de discuter. Ils voulaient juste que je sois dehors parce qu'ils voulaient récupérer mon chalet parce que c'était un logement de fonction. Donc je ne sais pas ce qui a été dit, ils ne me connaissaient pas, mais ils ont essayé de me menacer, me mettre la pression. Nous, si on veut que tu partes, tu partiras. Puis il y a eu des menaces de mort. Et moi, je craignais pour ma vie, donc j'étais malade en fait, hein, clairement. Psychologiquement, j'étais très faible, j'étais fatigué, j'avais constamment peur de traverser, passer devant la réception, croiser tel visage, telle personne. J'étais seul dans mon chalet. Dans la nuit, avec des gens autour, et je ne savais pas si on allait fracasser ma vitre ou si on allait me percer les pneus de ma voiture. Donc voilà, c'était ça le climat tous les jours. Donc je comptais pas rester, ça c'est clair. Je ne savais juste pas où aller, comment, avec quoi. Bon, c'est un enfer, quoi. Utopia, quelques mois après, donc dès septembre-octobre, oui, a commencé à vouloir faire des travaux et à mettre dehors tout le monde. Ils voulaient fermer le camping donc le 20 octobre et moi j'ai été licencié le 10 octobre. Les résidents, il y a un huissier qui est venu pour leur dire que le 20 octobre ils devaient partir. En gros, ça nous laissait quoi, 10 jours pour partir, ce qui est forcément impossible quand un résident est là depuis 35 ans. Comment voulez-vous qu'il arrive à... Il a une petite retraite, il est là depuis toujours et il va aller où du jour au lendemain? Enfin, c'est inconcevable, à savoir que le camping, encore une fois, il y a 10 hectares, les travaux, ils peuvent en faire, les résidents, les 5 qui restent, là, je pense pas qu'ils dérangent. Donc voilà, moi j'étais pas d'accord avec ça. J'ai discuté du coup avec les résidents qui étaient un peu désemparés, ils ont été menacés, il y a l'eau qui a été coupée, l'électricité qui a été coupée. Et suite à ça, il y a une personne qui était là depuis 35 ans qui s'est suicidée. En face de son mobilhome, donc j'ai été là, je l'ai vu. Elle s'est pendue. Elle ne supportait pas la pression qu'Utopia lui mettait. Elle disait, moi je veux pas partir, je ne sais pas où aller, je veux mourir dans ce camping. Voilà, elle avait quand même, je sais pas, 85 ans, une pauvre dame, laissez-la tranquille. Enfin, c'est pas ça qui va vous empêcher de générer de l'argent. Laissez-la dans sa petite caravane, elle est à la fin de sa vie. Enfin, merde, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Cette personne ne méritait pas ça. Du coup, on a fait appel à la justice pour essayer de... bah, d'avoir un peu d'aide, demander du temps pour qu'on se retourne. Donc je pensais que la justice allait quand même nous dire « Ok, on vous donne 1, 2, 3 mois de plus pour vous retourner ». Je pensais que ça serait quand même pas cher payé. Hein. On demande pas de l'argent, on demande rien, on demande juste du temps. Et la justice a rendu un jugement en décembre pour nous dire qu'on était tous condamnés à payer des indemnités d'occupation à Utopia. Donc Utopia, une entreprise qui génère des millions. Moi, ils demandent 6 000 euros parce que je suis resté 2 mois, à savoir que 2 mois, ça reste quand même un délai plus que raisonnable, surtout en période de fête, alors qu'ils m'ont retiré mes moyens d'existence. C'est eux qui ont rompu mon contrat. Je pense pas mériter de devoir payer 6 000 euros à la personne qui m'a empêché de travailler, parce que moi, tout ce que je voulais, c'était travailler. Donc voilà, il n'y a pas que moi qui dois payer des indemnités, il y a les autres résidents. Donc je comprends pas qu'on puisse mettre du jour au lendemain des gens dehors de cette manière, aussi rapidement, avec mettre autant de pression, les huissiers, tout ça, sans prendre en compte que c'est des gens qui n'ont aucun moyen, qui n'ont aucun endroit où aller, sinon ils ne seraient pas là. Donc je comprends toujours pas la raison. La seule option que j'avais, c'était retourner chez ma mère. Donc j'ai essayé de regrouper des amis. On a fait un déménagement en quelques semaines. Et j'ai tout mis chez ma mère. Et j'ai abandonné mon chat que j'avais adopté. J'ai dû le laisser là-bas parce que je pouvais pas l'amener avec moi. Tous mes souvenirs sont restés là-bas. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont brisé le cœur. Donc voilà, on m'a retiré mon avenir, on m'a retiré mon héritage, on m'a retiré ce que j'aimais le plus dans la vie. C'était ça qui m'animait, c'était ça qui me faisait me réveiller le matin. Ce camping, c'était un havre de paix. J'étais content de voir ma famille, de parler des problèmes, de comment les résoudre, trouver des solutions. C'est ça que j'aimais faire. Et puis, par rapport à mon grand-père, je voulais lui rendre hommage. Enfin, quand j'étais petit, je lui avais promis que je ferais en sorte que ce camping fonctionne. Et j'avais pour mission de faire que ce camping soit un très bon camping. Et je prenais cette mission très, très à cœur. Et eux, quand ils sont arrivés, ceux qui ont racheté Utopia, c'est un peu l'image des colons qui arriveraient en Amérique et qui seraient là à tout dézinguer, à tout détruire autour d'eux, à couper les arbres, à machin, juste pour faire du profit. Nous, notre but, c'était pas forcément de faire du profit, c'était garder quelque chose de familial, forcément faire de l'argent, mais pas de détruire la nature, pas de mettre 4 mobilhomes là où il n'y en avait qu'un seul. Tout ça pour une question de rentabilité, non, non. Ils en ont fait une usine, en fait. Donc ça me reste un petit peu au travers de la gorge. Par la suite, j'ai voulu retourner dans mon domaine, qui est le design, savoir qu'à Aix, il n'y a pas d'offre. Donc j'ai abandonné l'idée. Et encore aujourd'hui, j'essaye de savoir où est-ce que je vais. Donc en fait, je repars de zéro. Je recommence ma vie, j'ai perdu mon travail, j'avais une copine à l'époque, j'ai tout perdu alors que j'étais en train de construire ma vie, je venais d'acheter une voiture, voilà, c'est des choses comme ça, puis il y a aussi cette petite voix dans la tête, cette petite montre, tic-tac, il faut avancer, il faut réussir, et c'est pas facile d'accepter tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui j'ai l'impression de me battre avec Utopia et avec la justice pour faire valoir mes droits, et il y a rien qui se passe. J'ai fait appel, c'est en cours, il y a aussi un prud'homme, et j'ai besoin que la justice fasse quelque chose, j'ai besoin qu'elle me donne raison. Je n'arrive pas à avancer tant que c'est pas fait. Donc ma vie est un peu en stand-by, tant qu'il n'y aura pas eu ce procès, mais ça peut prendre des années, donc ça me fatigue de savoir que ça ne sera pas terminé, j'aimerais que ça se termine maintenant, et je ne peux pas. Et comme il n'y a plus de place, les tribunaux sont surbookés, là ça a été reporté en décembre. Donc voilà, ça fait quand même déjà maintenant 2 ans que je suis là-dedans. Voilà, j'y pense pas toujours, mais c'est vrai que là, quand j'y pense, ça me prend la tête. Et ça me fait du mal.
Je suis Hervé, je suis commerçant sur les marchés, notamment Aix-en-Provence, depuis juillet 98. J'ai pas tellement choisi ce métier au départ parce que c'était plutôt contraint et forcé vu la situation dans laquelle je me trouvais à l'époque. Parce que je couchais dans mon fourgon Et jusqu'au jour où je me suis fait attaquer sur une aire de repos. Donc j'ai dit, il faut trouver une autre solution. Et je connaissais le camping Chanteclerc pour y être allé en vacances dans une autre vie. Après, de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui a quitté le camping. Je lui ai acheté un mobilhome des années 80. Le gars, il avait des problèmes et il me l'a vendu pour 1000 euros. Voilà. Et puis après, il s'est délabré. Et puis j'ai eu encore une opportunité. J'ai récupéré un mobilhome en février 2012, qui était des nouvelles générations. Pareil, j'ai fait une belle affaire, quasiment flambant neuf. Donc j'y étais depuis 2003, mars 2003. Et disons que globalement, ça se passait très bien. Les gens qui habitaient là, c'est des gens qui avaient la fibre de vivre ce mode de vie. Bon, il y en avait que c'était un peu contraint, évidemment. Et eux, en plus, ils accueillaient des ouvriers, parce qu'il y avait beaucoup de chantiers sur Aix-en-Provence. Donc les ouvriers, c'était une part non négligeable d'entrée d'argent pendant les mois creux, pendant l'hiver. J'ai rencontré des gens sensationnels, dont Violette et Michel. Tous les deux ont été les deux premiers à s'installer au camping le début des années 80. Thierry, qui est devenu un très bon ami, qui a pris sa retraite, qui était chauffeur à la RTM, donc les réseaux d'autobus à Marseille, beaucoup avaient choisi ce mode de vie. Fait d'indépendance, de liberté, dans un cadre magnifique, à 3 km du centre-ville d'Aix-en-Provence. On est propriétaire de son logement, c'est pas rien, à défaut d'être propriétaire de la parcelle. Mais au moins, on a quelque chose. Au milieu de la verdure, avec une proximité avec les voisins, qui fait qu'on finit par se lier d'amitié et tout. Le seul point noir, c'était l'absence d'investissement et d'entretien du camping, et donc le déclin progressif en termes de fréquentation. Et puis à partir de 2020, ça a empiré, jusqu'au point où c'était intenable. Petit à petit, ça a dégénéré jusqu'au moment où le camping a été cédé à un monsieur, un architecte sur Aix-en-Provence, et qui a sous-estimé l'ampleur des moyens à consacrer pour rénover le camping. Et à tel point qu'en janvier 2024, il n'a pas eu d'autre choix que de faire mettre le camping en redressement judiciaire. Et donc c'est là que Utopia s'est présenté et a racheté le camping. Simplement, la philosophie, ce n'est plus du tout la même. Parce qu'ils ne veulent pas des résidents à l'année. Donc on a été convoqués tous à un jour de juin 2024, l'an passé, les uns après les autres, pour nous entendre dire qu'on avait 3 mois pour partir. Et qu'on aurait jusqu'au dimanche, peut-être que je dis des bêtises, le 17 octobre, pour partir, parce qu'à 20h, ce dimanche-là, ils nous menaçaient de tout couper. Eau, électricité, et même ne pas pouvoir sortir parce qu'ils avaient installé des portails qui faisaient qu'on ne pouvait pas sortir, ni rentrer. Donc on s'est regroupés, et la seule solution, c'était de prendre un avocat et d'aller devant un tribunal. On était... Donc Violette et sa fille, ça fait 2. Il y avait Lucas, 3. Florence, 4. Lucie, 5. Thierry, 6. On était plus que 8 à la fin. C'était pas grand monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dû partir. Puis certains ont parti, ils n'ont pas attendu, donc on s'est retrouvé à très peu finalement à la fin. On s'est retrouvé à 4-5, à tout casser. Voilà. Cinq jours avant l'audience, c'était un jeudi, je me rappellerai toute ma vie, Violette. On l'a retrouvée pendue après sa pergola. Et elle avait parfaitement prémédité son acte, puisque elle s'était pendue avec un fil en nylon. Elle avait préalablement empoisonné et endormi son chat, qu'elle avait mis dans le frigo, et laissé une lettre. Voilà. Elle avait 83 ans. C'était la plus ancienne. Je crois qu'elle avait totalisé à peu près 43 ans d'occupation au camping. Voilà. C'était chez elle, elle avait la main verte, c'était magnifique à cette époque de l'année, son emplacement, avec plein de fleurs et tout. C'était une amoureuse des chats, quelqu'un d'adorable. Les dernières fois que je l'ai vue, elle était désespérée. Elle sentait très bien que c'était terminé, qu'il n'y avait pas d'issue pour elle. Voilà. Et la dernière fois que je suis allé la voir pour prendre des nouvelles, elle n'a pas voulu me parler. Donc, il faut dire une chose. Utopia a fait beaucoup d'efforts pour Violette. Ils lui ont fait plein de propositions et à chaque fois elle refusait parce qu'elle était viscéralement attachée à son endroit et à sa caravane. Voilà. Elle m'a toujours dit, Hervé, je partirai jamais. Si je pars, ça sera les deux pieds dehors. Voilà. Puis moi, je peux vous dire que j'ai passé un très sale quart d'heure. Là. À cette époque de l'année, j'étais au 36e en dessous. Du style à pas aller au marché un jeudi matin à Aix-en-Provence ou un mardi matin, cloué dans mon lit. Donc, je comprends parfaitement la situation dans laquelle elle était. J'ai eu d'autres voisins qui vivaient ça sereinement, qui étaient sur deux, pas de problème, qui le vivaient très bien. Mais moi, je faisais partie de ceux qui le vivaient très très mal. Et je voyais pas d'issue. Partir au mois d'octobre, sans solution de repli, et puis avec un groupe quand même qui était déterminé, qui mettait la pression, qu'on sentait prêt à tout quand même, hein, pour obtenir ce qu'il voulait. Hein. Cinq jours après, il y avait l'audience. Vous imaginez l'émotion. Donc, sous le coup de l'émotion, c'était la présidente du tribunal. Elle a dit, moi, je refuse de prendre une décision aujourd'hui, après ce qui s'est passé. Il faut trouver un accord. Donc, le report de l'audience en décembre. Et puis, en décembre, l'émotion était retombée. C'était quelqu'un d'autre comme président du tribunal. Donc, la décision, elle était la suivante. On reste au camping, mais on devait déménager dans une autre partie du camping. Mais loin des travaux. Et évidemment, ça n'a pas été respecté. On a été déménagé. Moi, mon mobil-home a été massacré. J'ai vécu 3 mois où le mobil-home y penchait au milieu des engins. Et il fallait voir quels engins. Ils ont construit des chalets. Ils ont fait rentrer des mobil-homes et des roulottes dernière génération. En fait, ils veulent proposer du loisir en camping, mais tendance verte, ouais, tendance écologique. Voilà. Quand on voit les tarifs, c'est pas à la portée de tout le monde. Et la pression est montée petit à petit. On sentait bien que de toute façon, ils allaient entamer des travaux dans cette partie-là fin mars et qu'il fallait que nous, on trouve une solution. Alors, il y a des bruits un peu différents. Au départ, ils devaient fermer chaque année du mi-octobre jusqu'à début avril. Et a priori, ils resteraient ouverts toute l'année. Voilà. Mais je me demande qui c'est qu'ils vont héberger pendant ce temps-là. Parce que ils veulent plus des ouvriers. Donc, les vacanciers, hors saison, je vois pas trop. Hein. J'ai habité là pendant 22 ans. Et puis, contraint et forcé de partir début avril de cette année. Moi, je suis parti le dernier, j'étais le 4 avril 2025. Voilà. Le dernier des Mohicans. Obligé, puisqu'il m'avait coupé l'électricité. Donc, le mobil-home, je l'ai laissé parce qu'il était dans un état lamentable. C'était une ruine. Donc, j'en ai acheté un autre. J'avais envisagé d'autres choses, un appartement, une maison, mais le problème, c'est qu'il faut des cautions, il faut des garanties pas possibles. Je n'avais pas envie d'engager un de mes frères là-dedans. Et puis, je ne sais même pas si ça aurait suffi. Et puis, j'aime ce style de vie. Et par contre, Lucie et Thierry, mes voisins, eux, on leur a offert le déplacement. Et c'est vrai que ça coûte diablement cher. C'est du convoi exceptionnel. Hein. Donc, qui ne peut pas emprunter les autoroutes. Et puis, l'installation. C'est pas donné non plus, c'est un gros travail. Donc Utopia a pris en charge les frais. Et après, quand même, il faut dire une chose, Utopia s'est bien comporté avec les gens comme moi. Ils nous ont payé quand même le droit d'entrer dans les campings où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Parce que maintenant, la plupart des campings à l'année, il y a un droit d'entrée. 3000 euros. Et ça peut être plus cher, hein. Ça peut aller jusqu'à 4000, voire 5000. Non, mais il ne faut pas croire que maintenant, dans les campings, c'est forcément bon marché. Hein. Ça restera toujours moins cher qu'une location de villa ou d'appartement, mais quand même. Vous avez moins en moins de campings en France qui proposent des emplacements avec des tentes. C'est une réalité. Maintenant, les campings, c'est des mobil-homes. Le marché du mobil-home est en explosion en France. On investit dans des mobil-homes, comme ça, même si ce n'est pas un camping à l'année qui ferme, par exemple, fin octobre et qui ouvre seulement début avril, on fait des rentrées d'argent telles qu'on peut se permettre de fermer. C'est des locations à la semaine qui peuvent aller jusqu'à pas loin de 2000 euros la semaine. Vous verriez les mobil-homes qu'il peut y avoir là où je suis, et c'est bien mieux que plein de maisons, et surtout les appartements. Les mobil-homes dernière génération, attention, c'est quelque chose. Puis les gens, il faut voir les véhicules qu'ils ont. Hein. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est celle que, d'une direction de camping qui change de politique en disant bah, « Désolé, on vend. » Et de vendre à un groupe qui ne veut pas des gens comme nous, tout simplement. Parce que ça, c'est recherché hein, par ces grands groupes. C'est très recherché. Bon, là où je suis, a priori, ils ne veulent pas du tout vendre. Au contraire, ils ont investi. Il est très bien, il est très beau, face aux collines de la Sainte-Baume. Et là, Saint-Maximin, la Sainte-Baume, le Provençal, il s'appelle. Et je ne regrette pas mon choix pour l'instant. Mais demain, va-t-on savoir ? Parce que c'est lourd à gérer. Hein.
Et vous, ça vous fait quand même quelques kilomètres là, pour venir au marché d'Aix-en-Provence ?
Ben oui, ça fait une quarantaine de kilomètres, mais il n'y avait pas le choix. Parce que maintenant, il est de plus en plus dur de trouver des parcelles pour y vivre à l'année. Il est de plus en plus dur. Parce que ça se remplit et qu'il n'y a plus trop d'opportunités. Et puis il y a moins en moins de campings où on peut résider à l'année. Normalement, on n'a pas le droit de résider à l'année. Normalement. Mais il suffirait de faire une législation qui soit adaptée. Qu'est-ce qui s'oppose au fait de vivre dans un camping à l'année ? Moi, je vois là où je suis, il est vraiment énorme. Il y a des bornes à incendie tous les 10 mètres, au cas où, parce qu'on est au milieu des pinèdes. Hein ? C'est impeccable. On vit dans des logements qui sont salubres, alors que la plupart des appartements ici dans la région, c'est une honte. Hein ? Quand on voit les logements qui sont loués ici, dans une cité étudiante comme Aix, c'est scandaleux. D'ailleurs, au Chantecler, à la fin, il y avait beaucoup d'étudiants qui se partageaient un mobil-home parce que le cadre était très bien pour eux et surtout pour pouvoir étudier et vivre dans des conditions qui soient décentes, puis surtout se partager le loyer. Au moment où les parents recherchent des locations ici pour que leurs enfants puissent faire des études universitaires, combien de fois ils m'ont dit « mais on ne pensait pas que les prix étaient comme ça ». Vu la crise du logement au niveau national, c'est un moyen, c'est une parade. Moi, j'ai vu, les dernières années, il y avait beaucoup de mères isolées qui ne trouvaient pas d'autre solution que de venir résider dans un mobil-home avec leurs enfants, à défaut.
Alors, ça, good.
C'était La vie au camping, deuxième épisode, le camping sans bourgeoise, un reportage de Clémence Aleza réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Lucas et à Hervé, bien sûr, ainsi qu'à Justine Leblond, d'ici Provence-Côte d'Azur, à Gaspard Lyon, qui est l'auteur du livre « Vivre au camping, un mal logement des classes populaires ». Merci aussi à Franck Collin, de Famille Rurale Mobile Home. Je précise que nous avons contacté le groupe Utopia pour avoir leur version des faits. Plus d'informations sur notre site à la page des Pieds sur Terre aujourd'hui. C'est Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Luce Mourant, notre stagiaire.